Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour. La guerre en Ukraine a fait passer à l'arrière-plan la crise politique qui sévit dans l'État voisin de Biélorussie, proche allié de la Russie. Depuis la réélection frauduleuse du dictateur Alexandre Loukachenko en août 2020, 1200 prisonniers politiques croupissent dans les geôles du pays. Ce sont les chiffres de l'organisation de défense des droits humains Viasna. Difficile dans ce contexte de mobiliser la communauté internationale sur leur sort, mais des militants, des proches, témoigne contre l'oubli. C'est le cas de Tatiana Romich, la sœur d'une des plus grandes opposantes au régime, condamnée à 11 ans de prison. Virginie Pironon l'a rencontrée à Paris.
Pour Tatiana Romich, depuis la révolution d'août 2020 en Biélorussie, plus rien n'est comme avant. La jeune femme a dû fuir son pays et donc quitter son travail, ses amis, sa famille, pour se consacrer désormais à temps plein à la cause des prisonniers politiques. Sa sœur, Maria Kolesnikova, flûtiste professionnelle et chef d'orchestre, cheveux blonds coupés très courts, a fait partie du trio de femmes qui a uni ses forces contre Alexandre Loukachenko à la dernière présidentielle.
Nous sommes pacifiques, nous sommes honnêtes et nous voulons vivre dans un pays sûr et libre. Et nous sommes prêts à nous battre pour ça. Vous êtes incroyables et je suis contente de vous voir ici. Merci beaucoup.
Aux côtés de la musicienne, celle qui est devenue le visage de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, candidate à la place de son mari emprisonné, ainsi que Véronika Tsepkalo. Des trois femmes devenues très populaires dans le pays, Maria Kolesnikova est la seule à être restée en Biélorussie. Lorsque les services secrets, le 8 septembre 2020, ont tenté de l'expulser par la force direction l'Ukraine, elle a sauté par la fenêtre du véhicule et déchiré son passeport. Un geste qu'elle paye au prix fort, condamnée à 11 ans de prison. Sa sœur Tatiana Romich arrive à avoir de rares échanges vidéo avec elle, conversation de quelques minutes seulement, très encadrée. La dernière a eu lieu le 8 juin.
Maria semble aller bien quand on la voit, en dépit des pressions et de l'isolement. Elle sourit, je vois qu'elle est très forte. Bien sûr, je vois aussi que c'est difficile pour elle, parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle est en prison. Mais rien ne peut la briser.
Pas même les conditions difficiles, les privations de courrier, de visite, le travail obligatoire et la promiscuité.
Elles sont environ 15 femmes dans une seule cellule. Elles sont divisées par groupes et ont un emploi du temps commun. Elles cousent des tenues de travail, des uniformes pour différentes entreprises d'État. C'est principalement pour l'armée, des uniformes militaires ou pour la police, pour le KGB.
Malgré ce cynisme, Maria Kolesnikova dit aimer ce travail et essaie d'en tirer le meilleur. Le jour de l'ouverture de son procès, les quelques images diffusées d'elle ont montré une jeune femme souriante en robe noire esquissant quelques pas de danse et formant un cœur avec les doigts, son signe de ralliement. Mais en détention, la jeune femme qui vient de fêter ses 40 ans privée de visite est surveillée de très près.
Maria n'est pas autorisée à adresser la parole aux autres prisonniers politiques. Ils se reconnaissent entre eux parce qu'ils ont des étiquettes jaunes cousues sur leurs vêtements. C'est ce qu'on met sur les affaires de ceux qui sont accusés d'extrémisme. Tous les prisonniers politiques ont ça. Cela veut dire qu'ils sont plus contrôlés que les autres, doivent faire face à plus de fouilles dans leurs affaires personnelles. Maria, elle, est constamment suivie par quelqu'un. Par exemple, quand elle travaille et qu'elle veut aller aux toilettes, quelqu'un l'accompagne systématiquement.
Aujourd'hui, rien ne permet d'être optimiste sur la situation des prisonniers politiques en Biélorussie. Tant qu'Alexandre Loukachenko restera au pouvoir avec le soutien de Vladimir Poutine, l'arbitraire restera la norme. Et pourtant, les deux sœurs ne nourrissent aucun regret. Tatiana Romich dit tout à fait comprendre le geste de sa sœur aînée quand elle a déchiré son passeport pour rester en Biélorussie, ce qui a changé le cours de leur vie.
J'y ai souvent pensé et à chaque fois, je suis arrivée à la même conclusion. C'était sa décision. Lors de l'été 2020, en juillet, en août, beaucoup de gens lui demandaient « Est-ce que vous partirez ou est-ce que vous déciderez de rester ?» Elle répondait toujours « Non, je ne quitterai pas le pays » parce qu'à ce moment-là, beaucoup de nos amis, des activistes de notre équipe, avaient déjà été arrêtés. Elle ne pouvait pas quitter le pays et les laisser. Elle voulait se battre pour eux.
Mais difficile, pour ne pas dire impossible, de se battre aujourd'hui de l'intérieur du pays. Tous ceux qui ont osé défier le pouvoir, du blogueur Sergueï Tikhanovski au chef d'entreprise Viktor Babariko, sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et avec la guerre en Ukraine, il est désormais très difficile d'attirer l'attention sur leur sort.
Nous comprenons que l'attention soit aujourd'hui tournée vers l'Ukraine. C'est une question qui m'a beaucoup travaillée. Est-ce que je devais m'investir plus pour aider l'Ukraine? Ça a vraiment été un choix difficile. Ça a duré une semaine après le début de la guerre. Puis j'ai compris que non, dans cette situation, je ne devais pas changer de cap et travailler encore plus sur la situation des prisonniers politiques. And work on
agenda of political prisoners even more. Aujourd'hui, Tatiana Romich veut rester positive. Cette situation, dit-elle, ne peut pas durer éternellement. Elle se dit convaincue que sa sœur, Maria Kolesnikova, aura un jour un grand rôle politique à jouer dans une Biélorussie enfin libre et démocratique.
Et c'est une conséquence aussi de l'intransigeance du pouvoir biélorusse et de sa capacité à déstabiliser l'Europe. Il y a un an, le pouvoir à Minsk envoyait vers la frontière lituanienne des milliers de réfugiés syriens, kurdes et africains qu'il avait spécialement fait venir par avion. En tout, 4400 personnes sont passées en Lituanie. Le dernier rapport d'Amnesty International sur leurs conditions d'accueil est accablant. Renvoi forcé, mauvais traitement et détention illégale. 2600 migrants sont toujours enfermés dans des camps sans aucune perspective d'avenir. Reportage à Vilnius, signé Marielle Vituro.
Ces dernières semaines, l'avenir des 2600 migrants enfermés dans 5 camps en Lituanie est discuté au Parlement, au gouvernement, dans les couloirs du ministère de l'Intérieur. Mais eux restent muets pour la grande majorité. Ceux arrivés il y a déjà un an ont le droit de sortir des camps, mais ils ne sont encore qu'une poignée. Ils ne peuvent donc compter que sur certaines ONG et parlementaires pour faire parler d'eux. Il y a 2 semaines, une cinquantaine de personnes défilaient sur l'avenue centrale de Vilnius et demandaient plus de droits pour les migrants. Manta Otas est bénévole dans une association d'aide.
Il y a encore beaucoup à faire car si on constate que des gens sont libérés, ils n'ont pas l'autorisation de travailler, ils n'ont pas d'accès à la protection sociale et ils ne sont pas non plus autorisés à quitter légalement la Lituanie. C'est la clandestinité sur le long terme qui les attend.
Les témoignages sont plutôt rares de la vie dans ces camps. Hélène, une Camerounaise enfermée depuis plus de 9 mois, nous en a fait parvenir un.
On a un problème avec l'intimité de la femme. Et déjà, on a les caméras partout. Premièrement, ça, on comprend qu'il y a des caméras partout. Mais vu qu'on n'a que le conteneur, c'est un peu pénible. On a les officiers qui entrent dans nos chambres à pas d'heure. Ils ne toquent même pas, ils n'attendent pas qu'on leur dise « entrez ». Et moi, personnellement, des officiers m'ont vu venir plusieurs fois.
Pour les personnes déboutées du droit d'asile mais présentes en Lituanie, la loi prévoit la possibilité de travailler légalement 5 ans après leur arrivée sur le territoire. Le Parlement étudie la possibilité de ramener ce délai à 18 mois, voire peut-être à 1 an. Vytautas Bakas est l'un des députés qui s'engage pour les migrants. Il est effaré de leur situation.
La Lituanie est désormais un pays d'accueil. Les gens sont enfermés depuis 1 an. Le pays a reçu 47 millions d'euros en 1 an pour maîtriser les flux migratoires. Nous avons 4500 migrants, ça fait plus de 10 000 euros par personne. Nous aurions pu les dépenser mieux pour éviter la violence de ces camps.
Bart Powell est enseignant, il est belge. Il donne des cours bénévolement aux enfants syriens. Il constate aussi que les dysfonctionnements sont nombreux, notamment en ce qui concerne les droits des migrants.
Très souvent, j'ai vu qu'il y a eu des longues périodes dans leur dossier de silence, alors qu'il y avait quand même des actions qui étaient faites par l'administration, par les tribunaux, par les services d'immigration, mais ils n'étaient pas informés des migrants. Donc, il y avait un silence voulu des autorités lituaniennes. Et après, ils utilisaient ça contre les migrants, en fait. Moi, j'ai vu qu'on est 3 qui ont perdu tous leurs droits parce qu'ils n'ont pas été... Ils n'ont pas fait appel dans les tribunaux.
Les autorités estiment que les amendements en discussion sont un bon compromis pour résoudre la situation des migrants. Elles attendent aussi que les Lituaniens s'engagent pour ces migrants, comme elles l'ont fait pour les 50 000 Ukrainiens arrivés depuis l'invasion russe en février. Des réfugiés qui représentent aujourd'hui 2% de la population du pays et qui restent bien accueillis malgré les difficultés de logement, notamment.
Et il n'y a pas qu'en Lituanie que le droit d'asile est en danger. Ce droit fondamental est aussi sérieusement à la peine dans 8 pays européens, en Allemagne, Belgique, France, Hongrie, Grèce, Italie, Pays-Bas et Suède. C'est le constat que dresse dans une dernière note l'ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort ACAT. Éric Mirguet, le directeur du pôle programme et plaidoyer, a expliqué à Fanny Blechner dans quelles conditions les demandeurs d'asile étaient accueillis en Europe.
Alors nous, notre constat, c'est qu'il est a priori mal accueilli, dans le sens où il y a beaucoup de mesures qui vont l'empêcher d'accéder à la procédure, des exclusions par rapport à son parcours, par rapport au fait que ses empreintes ont pu être prises dans un autre pays. Ceux qui rentrent dans la procédure sont en général contraints d'être soit à la rue, soit dans des conditions de vie extrêmement précaires pendant de nombreuses semaines ou mois, pendant lesquelles on va étudier sa demande. Et après, les décisions sont jusqu'à présent plutôt négatives, si on regarde les chiffres. Et de plus en plus, ceux qui les obtiennent, c'est des statuts assez précaires. Les législations ont de plus en plus créé des motifs d'exclusion.
Pourquoi est-ce que vous insistez autant dans votre étude sur ces conditions d'accueil ?
Ça permet de pouvoir présenter sa demande dans de bonnes conditions. Parce que préparer un dossier dans une langue que vous ne maîtrisez pas, avec une procédure qui est extrêmement complexe, puisque même les avocats et les gens qui travaillent dans le domaine sont tout le temps en train de réviser, puisque les lois changent tout le temps, les directives évoluent. Et si vous dormez à la rue, et bien être présent pour les rendez-vous, avoir l'énergie pour répondre à toutes ces questions, et bien quand vous n'avez pas dormi la veille, vous n'avez pas mangé la veille, il va être vraiment compliqué que vous puissiez répondre à tout ce que l'officier de protection va vous demander. Donc c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur cette question de l'accueil et des conditions, parce qu'un droit d'asile où les gens vivent dehors, en fait, c'est comme s'il n'existait plus, quoi.
Alors, vous le rappelez dans votre rapport, des normes minimales concernant l'accueil des demandeurs d'asile existent au sein de l'Union européenne, mais avec un même dossier, les chances d'être régularisés ne sont pourtant pas les mêmes.
Suivant un des pays des 27 où vous allez déposer votre demande, vous avez entre 2 et 96% de chances d'obtenir l'asile. Alors que vous fuyez exactement les mêmes choses, vous allez fournir le même récit, mais l'appréciation que vont avoir les officiers de protection qui vont vous rencontrer, l'appréciation que les juges qui vont entendre votre cas font faire, que soit vous aurez quasiment aucune chance, soit vous êtes quasiment sûr de l'obtenir à partir du moment où vous démontrez que vous venez de ce pays. Et donc ça, c'est un énorme problème pour toutes ces personnes.
Et est-ce que la guerre en Ukraine peut avoir un quelconque effet sur l'accueil réservé aux demandeurs d'asile ?
Alors nous, on l'espère. Il y a tellement de journalistes, tellement d'images, parce qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde où il y a peu, pas d'images, et beaucoup des personnes qu'on reçoit viennent de ces zones du monde où les journalistes ne se déplacent pas. Et là, le fait que beaucoup de gens aient enfin pu voir qu'est-ce que ça signifie, fuir sans avoir d'autres possibilités, en prenant simplement quelques affaires et en partant, sans savoir si on pourra rentrer. Nous, on espère, et on est nombreux à l'espérer, que ça va permettre aux gens de réaliser la gravité de ce type de situation et qu'il est naturel d'arriver sans rien, sans avoir fait beaucoup de choix, et que c'est quelque chose qui doit être défendu et protégé.
Éric Mirguet, le directeur du pôle programme et plaidoyer d'ACAT. Sommet très attendu ce mercredi et ce jeudi à Madrid pour tous les pays membres de l'Alliance Atlantique. La question du parapluie américain de défense n'a jamais semblé aussi cruciale et débattue avec la candidature de deux nouveaux États, la Suède et la Finlande. Mais ce renouveau pose aussi la question de son financement. Franceline Beretti a fait les comptes dans son œil européen.
Qui paye pour l'OTAN ? Il y a les contributions directes des États, environ 2,5 milliards d'euros, divisés entre les alliés selon leurs moyens. Cet argent sert au fonctionnement de l'organisation. Mais le gros du financement, ce sont les capacités affectées à l'OTAN par les pays pour les opérations militaires communes. Donc, la puissance militaire de l'Alliance dépend de celle des armées nationales, que les pays financent ou pas, déplorait Donald Trump en 2018.
NATO members must finally contribute their fair share.
Il est temps que les pays de l'Alliance payent leur part et respectent leurs obligations financières. 23 des 30 États membres ne paient toujours pas ce qu'ils devraient payer, ce qu'ils sont supposés payer pour leur défense.
Aujourd'hui, ces 30 États membres et Washington payent encore pour les autres. Si tous les pays membres hors États-Unis ont une production de richesses comparable aux Américains, ce groupe consacre moitié moins que Washington à la défense. Pourtant, en 2006, les gouvernements se sont mis d'accord pour consacrer 2% au moins de leur PIB à la défense. 15 ans plus tard, seuls 8 pays respectaient cet engagement. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine, qui a même fait bouger le nain militaire allemand. L'ancienne ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a exprimé son impatience sur Twitter.
Je suis tellement en colère contre nous parce que nous avons historiquement échoué. Après les conflits en Géorgie, en Crimée et dans le Donbass, rien n'a été préparé qui aurait vraiment dissuadé le président russe Vladimir Poutine. Nous avons oublié la leçon de Schmitt et Kohl, à savoir que les négociations ont toujours la priorité, mais qu'il faut être tellement fort militairement que la non-négociation ne peut pas être une option pour l'autre partie.
Pour l'Allemagne, ces propos sont une révolution, explique Ali Laïdi sur France 24.
L'Allemagne qui a annoncé quand même un virage là aussi à 180 degrés, 100 milliards dans les deux prochaines années consacrés à la défense. Pourquoi faire ? Pour acheter des F-35 américains, pour acheter des hélicoptères lourds américains, pour acheter des patrouilleurs américains. Donc évidemment, ça va poser un certain nombre de problèmes au sein de l'Europe.
Oui, mais ils ne sont pas les seuls. Écoutez ce témoignage d'un pilote de l'armée belge. 4000 heures de vol aux manettes d'un F-16, l'avion de chasse américain.
4000 heures, c'est surtout atteint parce que l'avion le permet, quoi, parce que l'avion est sans arrêt modernisé, parce qu'il est multirôle, il faut sans arrêt se remettre en cause et en question. Parce qu'un avion qui n'évolue pas, vous savez, j'imagine bien qu'après 10 ans passés dessus, ben, il y a aussi un manque d'intérêt. Donc là, ben, oui, c'est un avion exceptionnel quand même.
Pourvu que les Français et leurs Rafales n'entendent pas cette belle pub pour le F-16. Les États-Unis ne sont donc pas perdants financièrement sur tous les plans avec l'Alliance Atlantique, vu qu'ils en sont le fournisseur. L'OTAN dépend d'eux pour certaines capacités essentielles. Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, le ravitaillement en vol, la défense antimissile balistique, la guerre électronique. Cela veut dire que pour se défendre, les autres dépendent de Washington. L'Europe peut-elle prétendre à une indépendance politique sans défense commune ? Pour les anciens pays du bloc de l'Est, la question ne se pose pas. Face à Moscou, ils veulent Washington, pas Bruxelles. Et ça se comprend. L'idée d'une défense européenne existe depuis les années 1950 et elle n'a jamais abouti. On verra si le Fonds européen de défense, avec ses 8 milliards d'euros entre 2021 et 2027, pourra permettre aux industriels européens de travailler enfin ensemble.
Et on terminera cette émission sur un grand écran, le cinéma qui se fait aussi le témoin de la guerre en Ukraine. Au Portugal, la ville d'Espinho, au nord du pays, a décidé d'héberger dans son festival Fest une partie de la programmation du Festival international du film de la ville ukrainienne d'Odessa. Au Portugal, Marilyn Darcy.
Empêcher la guerre de faire mourir, le cinéma d'Odessa, donner une chance à la culture d'alerter sur le conflit en Ukraine et tenter même modestement de contribuer à la résolution du conflit. C'est ainsi que Fest, festival des nouveaux réalisateurs et du nouveau cinéma d'Espinho, résume son choix d'accueillir une partie de la programmation de son congénère ukrainien, le festival de cinéma d'Odessa, suspendu en 2022 pour cause de guerre. Le festival portugais, dont c'est la 18e édition, accompagne l'épopée cinématographique d'Odessa depuis ses débuts en 2010. Le Fest a donc jugé pertinent et solidaire d'ouvrir une fenêtre pour la projection des films ukrainiens. Une section entière est consacrée au cinéma ukrainien, soit 10 films, courts et longs métrages. Un partenariat a été établi dès le début du conflit en Ukraine en raison des difficultés techniques et matérielles. La programmation permettra ainsi de voir des films récompensés précédemment par le Festival des bords de la mer Noire. C'est le cas d'Atlantis de Valentin Vazdianovitch. Atlantis est un film sombre qui raconte l'histoire d'un ancien militaire traumatisé par la guerre. Sur fond d'apocalypse, de pollution et de démantèlement de l'univers connu, le film a des accents prémonitoires, mais sa fin est positive. Le Fest d'Espinho pousse encore plus loin son élan de solidarité en offrant l'accès libre au festival, aux cinéastes et étudiants en cinéma ukrainiens pour voir des films et participer aux ateliers ainsi qu'aux masterclass typiques des festivals indépendants.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Pas d'émission demain pour cause de grève du service public, mais rendez-vous dès mercredi.